Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, une émission de compte, non pas de compte, mais de compte, des histoires. Oui, aujourd'hui, ben, quel compte? Bien, des contes mystérieuses del Quercy. Les contes mystérieux du Quercy. Un livre que j'ai trouvé à la bibliothèque de Caylus, de Michel Jacquet. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre comme conte mystérieux? Lisons ce qui est dit sur le livre. On voit la fantaisie des Quercinois a créé toute une mythologie populaire. Bon, c'est bien, mais c'est vrai que il n'y a pas que les Quercinois qui ont créé toute une mythologie populaire. Tous les peuples l'ont fait. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial? Le malin erre ici-bas pour perdre les malheureux. Les serpents, les chats et les loups seraient doués de pouvoirs maléfiques. On voit que c'est finalement un peu comme dans tous les pays, des histoires étranges. Alors je me suis plongé là-dessus, là-dedans plutôt. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, on peut dire que ce sont des vieilleries d'une certaine manière, pour nous en tout cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on y voit que le remède à beaucoup de problèmes, eh bien, c'est tout simplement l'eau bénite. Or, aujourd'hui, le pouvoir de l'eau bénite n'est plus reconnu autant dans les campagnes. Hein. On y rencontre le diable, et c'est vrai que le diable, aujourd'hui, on n'en parle plus trop, du subjonctif, hein, de l'imparfait du subjonctif, du présent du subjonctif. Vous verrez donc qu'il s'agit de vieillerie, effectivement, et des histoires à l'origine pour faire peur. Alors, on le sait, une bonne partie du travail de la religion a constitué à faire peur, hein, pour culpabiliser, ainsi les gens filent droit. Bon, ce temps aujourd'hui est révolu largement, et c'est à mieux. Mais les histoires restent, et du coup, elles nous parlent d'autre chose. Et peut-être finalement de ce diable en nous, qui nous fait nous perdre. Ogre affamé de victuailles ou d'amour. Mais on va voir. Partons donc pour le Quercy. Mais vous me direz que nous y sommes, et c'est vrai. Donc, alors, ben, restons-y.
Il faut parler occitan.
Et ce n'est pas le coup de thème, virutio l'alvene.
Cécile était une demoiselle jolie comme le jour et honnête comme l'or. Cependant, comme toutes les filles de son âge, elle aimait s'amuser. À la sortie de la messe, Cécile s'adressa à sa mère. « Maman, mon amie Émilie m'a dit qu'il y aura ce soir un bal dans la salle des fêtes de notre village. Rappelez-vous, vous m'avez offert une nouvelle robe. Je voudrais la mettre pour aller danser. » Mon amie Émilie m'y accompagnerait.
Ma fille, tu n'y penses pas.
Ce serait un grand péché d'aller danser aujourd'hui sans respect pour la sainteté du dimanche. De plus, les bals sont des lieux de perdition, le plus souvent fréquentés par de mauvaises gens qu'une fille honnête ne devrait jamais rencontrer. Je suis ta mère et tu dois m'obéir. Ce soir, tu dormiras dans ta chambre comme d'habitude. Je t'interdis d'aller danser le dimanche qui est le jour consacré à notre Seigneur. Cécile fut déçue, mais ne répondit rien. Cependant, les filles sont rusées. Elle avait une autre idée en tête. Le soir, elle embrassa sa mère et fit semblant d'aller au lit. Mais de sa chambre, elle écoutait de toutes ses oreilles. Quand elle n'entendit plus de bruit et qu'il lui sembla que sa mère s'était endormie, elle se leva précautionneusement, mit sa jolie robe, enjamba silencieusement la fenêtre et s'en fut rejoindre Émilie qui déjà l'attendait impatiemment dans la salle de bal. Là, de nombreuses jouvencelles étaient assises sur des bancs à l'affût de galants. Au bout d'un moment, un beau jeune homme brun s'approcha du banc et adressa la parole à Cécile, qui était sûrement la plus jolie de toutes les filles présentes en ce lieu. « Mademoiselle, je vous présente mes respects. N'accepteriez-vous pas de danser avec moi ?» Cécile, toute troublée, rougit un peu. Toutefois, elle était fière d'être choisie parmi toutes ses compagnes pour danser avec un homme jeune, aussi élégant et séduisant. Bien sûr, elle se fit un peu prier en minaudant, mais elle se leva assez rapidement. Le jeune homme la conduisit jusqu'à la piste de danse et l'enlaça. Le jeune homme dansait d'une manière admirable. L'orchestre jouait une musique entraînante et les mouvements du couple étaient si harmonieux qu'ils semblaient voler au-dessus du plancher. Tous les spectateurs en étaient charmés. Cécile était tellement enivrée par le plaisir de danser qu'elle remarquait à peine les yeux du galant qui diffusaient une étrange lueur rougeâtre. Tout à coup, les musiciens entamèrent un air des plus rythmés. Le jeune homme étreignit avec plus d'énergie sa cavalière qui sentit contre sa poitrine une chaleur inhabituelle et commença à avoir peur. En baissant les yeux, Cécile vit avec horreur qu'un peu de fumée s'échappait des planches du parquet comme si le bois brûlait à l'endroit précis où le galant posait le pied. Cécile était épouvantée. Cependant, tout en suivant la musique, elle réussit à diriger son soupirant vers le banc où son amie était encore assise. Entre-temps, elle pensait « Cet homme porte un habit à la dernière mode. C'est sûrement quelque habitant de la ville. Par conséquent, il se pourrait bien qu'il ne comprît pas notre langue. Je vais essayer de prévenir Émilie. » Quand elle fut auprès d'Émilie, Cécile feignit de trébucher pour s'approcher davantage de l'oreille de son amie. Ainsi, dans un souffle, elle eut le temps de lui murmurer « L'homme qui danse avec moi n'est pas une personne ordinaire, il me fait peur. Je t'en prie, fais quelque chose pour m'aider !» Émilie était une fille astucieuse. Elle comprit aussitôt ce qui se passait et courut hors de la salle de bal vers la maison la plus proche. Comme une folle, elle frappa à la porte. Une femme, déjà âgée, toute vêtue de noir, tira le verrou et ouvrit. « Madame !» cria Émilie. « Pardonnez-moi de vous déranger à cette heure, mais n'auriez-vous pas gardé chez vous un peu d'eau bénite ?»«
Ma fille,
J'ai dans ma chambre un petit bénitier où trempe un rameau de laurier. Il est posé devant une statuette de Saint-Christophe pour nous protéger contre l'orage. Je vous en prie, donnez-le-moi au plus vite, car l'une de mes amies se trouve en grand péril. Émilie saisit le bénitier, se précipita vers la salle de bal et vit son amie blanche comme une morte qui tournoyait encore dans les bras de ce bizarre cavalier. Elle jeta toute l'eau bénite sur le couple. Aussitôt, on entendit un coup de tonnerre assourdissant, on vit un éclair éblouissant, on sentit une forte odeur de soufre et l'homme disparut dans une épaisse fumée. Cécile, qui était tombée sur le sol, se releva étourdie. Sa tête tournait encore, mais elle était saine et sauve.
Rusignule salvage, voi dintra e menage, donde non la ti dolare. Tu che na lu più tendre, di donne gallo prendere, donde non la ti dolare. Ne prende pa de rugio, alla samurfa rugio, donde non la titolare. Prendere Brunetto, son tutto pulito, donde non la titolare. Sillu pundenando, duro signori canto, donde non la ti dolare.
L'histoire rajoute, mais je n'ai pas cru bon de le dire, mais je peux le lire maintenant. L'histoire rajoute, vous aviez certainement deviné quel était ce soupirant. Ah non, on n'avait pas deviné. La fille désobéissante avait rencontré le diable, qui rôde toujours ici-bas. Le malin, sous l'apparence d'un jeune homme, tiens, était venu au bal ce soir-là, dans le seul but de tenter les gens et de s'approprier l'âme d'une fille jeunette encore naïve. Cécile comprit ainsi que sa mère avait raison et se promit de ne plus jamais lui désobéir. Et voilà, un moyen commode hein, pour faire rester les filles à la maison à l'époque. La peur du diable. Le chat. Un bûcheron vivait avec son épouse dans une pauvre maison bâtie à l'orée d'une forêt profonde. Le mercredi des cendres, il alla chercher du bois et découvrit, blotti au pied d'un chêne, un petit chat noir, très maigre, qui semblait faible et affamé. Pris de pitié, il le prit, le mit dans sa besace et revint chez lui. Dès qu'il rentra, son épouse le rabroua. Que veux-tu faire de cette bête? Crois-tu que nous soyons assez riches pour nourrir une bouche de plus? Nous subvenons à peine à nos besoins avec le peu que tu gagnes en coupant du bois. » Le bûcheron protesta. « Femme, tu sais que les souris et les rats font une sarabande de tous les diables dans notre grenier. Ils dévorent les grains, les pommes de terre que nous essayons de conserver. Un chat ne serait pas de trop pour chasser toute cette canaille. » Finalement, la femme se laissa amadouer et accepta de garder le chat à la maison. Mais il fallait le nourrir. C'était le mercredi des cendres, premier jour de carême. Il n'y avait que de la soupe aux choux à la cuisine. La femme lui en versa une pleine écuelle. Le chat miaula tout d'abord, puis, étrangement, commença à parler.
« Je n'aime pas la soupe aux choux !»
En vérité, le bûcheron et son épouse n'avaient pas l'habitude d'entendre les chats utiliser un langage humain. Néanmoins, l'homme ne s'émut pas trop et répondit « Et pourtant, il faudra bien que tu la manges, car nous n'avons rien d'autre à t'offrir. » La femme réfléchit un bon moment. « Mon mari, écoute-moi bien. Tu sais bien que sans les conseils des femmes, vous les hommes n'auriez aucune idée. Ce chat est pourvu d'un don rare. » Il semble parler comme un perroquet, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Nous pourrions l'exhiber dans les foires et améliorer ainsi nos modestes revenus. Maintenant, nous devrions le nourrir pour qu'il ne mourût pas. Il semblerait qu'il aimât seulement la viande. Nous avons conservé des salaisons de porc dans les pots, mettons-en dans son écuelle. De la viande, s'offusqua le bûcheron. « As-tu oublié que nous sommes en carême et que ce serait un péché de lui donner de la viande ?»« Ne dis pas de sottises, les bêtes n'ont pas d'âme. Elles ne feraient pas de péché, même en mangeant de la viande un jour de jeûne. » Le bûcheron se laissa convaincre par sa femme. Et il donna au chat un peu de viande de porc et le garda dans la cuisine, enfermé sous une mue. C'est-à-dire une espèce de cage arrondie où on met souvent les poussins hein, lorsqu'ils viennent de naître pour éviter que la buse ne les attrape. Et là donc une sorte de grillage arrondi avec une pierre dessus pour empêcher le chat de s'échapper. Au bout d'une semaine, la femme s'aperçut que le chat avait grandi. Mais comme peu, avait beaucoup grandi. Et chaque jour, cette bête réclamait insolemment « De la viande! Servez-moi de la viande !» Chaque jour, le chat bougeait davantage et sa taille croissait. Inquiet, ses maîtres durent poser sur la mue une pierre toujours plus pesante pour qu'il ne la renversât pas. Le jeudi saint, la provision de viande était presque terminée. Et le chat occupait déjà tout l'espace de la mue. Cette fois, la femme était épouvantée. Elle appela son mari. « Nous sommes à la veille du vendredi saint. Si demain, nous nourrissons encore le chat avec de la viande, je crains qu'il n'arrive un grand malheur. Le chat est devenu très vigoureux. Si nous lui ôtions la mue, il pourrait nous sauter dessus. » Je suis maintenant presque sûr que ce n'est pas une bête ordinaire, mais quelque chose d'ensorcelé. « As-tu gardé de l'eau bénite ?» questionna l'homme. « Non, je n'en ai plus. Je pars en demander au curé. » Le prêtre était soupçonneux. Il ne donnait pas facilement de l'eau bénite, spécialement pendant la semaine sainte. Cet homme avisait craignait que de mauvaises gens ne missent à profit cette période dédiée à la prière pour utiliser les choses sacrées et se livrer à quelque acte malveillant lié à la sorcellerie. Aussi le prêtre s'écria sévèrement « Madame, que comptez-vous faire de cette eau bénite ?»«
Monsieur le curé, n'avez-vous pas vu tous ces nuages noirâtres qui obscurcissent le ciel ?»
Nous aurons certainement un orage, quelque chose de terrible, et nous devons prier Saint-Christophe pour l'éloigner. Nous avons aussi besoin d'eau bénite pour protéger notre maison. Finalement, le prêtre se laissa convaincre. Et la femme retourna chez elle avec un petit flacon d'eau bénite. Le chat s'agitait furieusement. Il frappait de la tête contre la mue et hurlait « De la viande ! Donnez-moi de la viande !» La femme, apeurée, jeta sur le chat qui était devenu gigantesque toute l'eau contenue dans le flacon. Aussitôt, on entendit un coup de tonnerre. On vit un éclair éblouissant. On sentit une forte odeur de soufre et le chat disparut dans une épaisse fumée.
À la San Juan d'Esti, la nuit est un pichotto. Tan pichot es la nuit que la mentido umbro. Umbro sur la luna, umbro sur l'ufio.
Birum birum, la sorcieros, bibu no bibulo. Cric cric, palu, cric cric, chot chot, chot chot, la nicciolo.
E birum birum, la sorcieros,
bibu no bibulo.
E cric cric, cric palu, cric cric,
chot, 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 la nicciolo. Voilà, Compte à rebours fini pour aujourd'hui. Et vous venez d'entendre comme musique la mal coiffée qui chantait à la Saint-Jean d'Estiu, c'est-à-dire maintenant à la Saint-Jean d'été. Et puis, comme musique, vous aviez aussi la Talbera, puis le duo Broto-Lopez qui chantait dessous le pont de Nantes, et puis le groupe des frères champions Bardane qui jouait une bourrée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Compte à rebours, c'est fini. Je vous dis portez-vous bien, à la semaine prochaine.